À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'association INIS, Italie, Nord-Isère.
Le troisième ou dernier lundi du mois à 20h.
Rediffusion le jeudi suivant à 18h et le dimanche suivant à 10h.
Actualité et tradition.
Chansons et gastronomie.
Bonsoir Dominique,
bonsoir Laurent. Alain, bonsoir Laurent.
Alors depuis notre dernière émission, il y a eu quelques petites élections en Italie, enfin des élections municipales partielles. Alors le premier enseignement qu'on peut tirer, c'est qu'il y a eu une faible participation, ce qui est d'ailleurs assez nouveau en Italie parce que en général c'est un pays qui votait beaucoup. Et là il y a une participation, oui.
Est-ce que je peux poser une question ? On entend beaucoup parler d'élections administratives.
Oui, tout à fait.
Alors ?
Oui, mais les élections administratives, pourquoi on les appelle administratives ?
Oui.
J'avoue que si c'est une colle...
Non, c'est pas une colle.
Elle est réussie.
Non,
administrative, c'est simplement parce qu'on élit des personnes qui vont gérer la commune. Donc ouais. On considère que c'est une administration,
d'accord,
en fait. Hein. Mais je peux pas le développer plus que ça. Hein. Voilà, alors en tous les cas, il y a bien eu des élections, effectivement, municipales partielles, et qui ont été marquées par la faible participation, disais-je, mais aussi par deux phénomènes assez importants. L'une par l'élection de Ignazio Marino du PD, parti du gouvernement, enfin du président du Conseil d'État, qui est un parti, disons, de centre-gauche, qui a ravi le poste de maire à Gianni Alemano du parti du PDL, parti de monsieur dont on entendra, je l'espère, plus bientôt plus parler, et qui avait un passé d'ailleurs un peu trouble, ce Gianni Alemano, une politique qui taquinait un peu pratiquement, sinon l'extrême droite, mais pas loin quand même. Hein. Et si, même on peut dire qu'il était taquiné à l'extrême droite. Donc ce monsieur Alemano a été battu par Ignazio Marino. Et autre phénomène important, vous vous rappelez que pour les législatives et les sénatoriales, il y avait eu une forte poussée du mouvement des Cinque Stelle et de Beppe Grillo. Même la presse française s'en est fait l'écho. Eh bien, ce qu'on laissait plus ou moins pressentir se passe, c'est-à-dire que là, au municipal, eh bien, ils ont vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de succès. Et pourquoi ? Tout simplement, je pense, parce qu'ils ont adopté une sorte de situation de blocage qui agace peut-être un peu finalement les Italiens, voire même ceux qui ont voté pour eux par lassitude. Hein. Oui. Et il y a deux de leurs députés qui ont déjà dit qu'ils ne quittaient le mouvement, et on en annonce même 24 autres. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur ces élections municipales. Sinon, cette dernière semaine a été aussi marquée par la disparition de Franca Rame, mais tu vas peut-être, Dominique, nous rappeler qui était Franca Rame.
Alors, Franca Rame est né en 1929 à Parabiago. Son père était acteur, sa mère fut également actrice. Elle a d'abord interprété en tournée des rôles d'enfant dans les pièces montées par la compagnie de ses parents. En 1950, avec une de ses sœurs, elle décide de se produire dans des revues, le théâtre di Rivista. En 1954, elle épouse l'acteur Dario Fo à Milan, dans la basilique Saint-Ambroise à Milan. Donc, de cette union naît un fils, Jacopo. En 1958, avec son mari, elle fonde la compagnie Dario Fo Franca Rame, dont elle est l'actrice principale et l'administratrice, et Dario Fo le dramaturge et metteur en scène. La compagnie, dans les années suivantes, obtiendra un très grand succès dans le circuit institutionnel des théâtres des villes italiennes. En 68, toujours aux côtés de Dario Fo, elle adhère à l'Utopie 68 Art en créant le collectif Nuova Scena, duquel elle se sépare quelque temps après, pour donner naissance à un autre groupe de travail appelé La Comune, où elle interprète des spectacles satiriques et contre-culturels très engagés. On se rappelle surtout de Mort accidentelle d'un anarchiste. Avec son mari, elle soutient l'action du Soccorso Rosso Militante. À partir de la fin des années 60, elle participe au mouvement féministe. En mars 1973, Franca Rame, à l'instigation d'officiers des Carabinieri, est enlevée par l'extrême droite et subit des violences physiques et sexuelles. Elle relatera en 1981 ces événements dans son livre « Lo stupro ». Le jugement du procès est rendu 25 ans après les faits, concluant à la prescription du délit de viol.
Qui veut dire le viol, d'ailleurs. Le stupro.
Oui, tout à fait. En 2006, elle se porte candidate en tête de liste aux élections sénatoriales, Piémont, Lombardie, Vénétie, Émilie-Romagne. Sous l'étiquette « Italia dei Valori », elle est élue sénatrice du Piémont. Antonio Di Pietro, ancien juge anticorruption, l'a proposée comme candidate à la présidence de la République, mais elle a été soutenue seulement par son parti. Elle a plus d'une fois annoncé sa démission de son mandat sénatorial en raison de ses divergences de vues avec les orientations gouvernementales. Alors c'est vrai que dire comme ça, énoncer les différents faits marquants d'une
de sa biographie,
ça dit des choses, mais en même temps, ça ne dit rien de la personnalité bouillonnante, très forte,
comme son mari.
Et du couple qu'ils ont pu former tous les deux, je crois.
Oui, homme de théâtre, homme politique aussi, on peut dire.
Très engagé.
Très engagé. Qui est prix Nobel aussi, une époque, et puis qui par contre, lui, a surpris, tu disais que Franca Rame s'était présenté sous l'étiquette du mouvement de Di Pietro, l'Italie des valeurs, mais Dario Fo a pris position, là, aux dernières élections législatives,
oui,
pour Beppe Grillo, ce qui avait été un petit peu surpris, mais bon... Voilà, il est peut-être un de ceux qui avait quelques illusions. Et tu parlais aussi du fils. Le fils est scénographe, concepteur de BD, de bande dessinée, lui-même engagé, notamment dans au niveau écologique. Voilà, enfin, une dame très, comme tu le dis, ce n'est pas sa biographie qui peut nous dire quelle dimension elle avait.
Non, malheureusement.
De tous les combats, à la pointe. De tout ce qui peut expliquer, dit-on, une modernité. Voilà, alors, autre disparition cette semaine, enfin, la semaine dernière plutôt, celle de Giuseppe Moustaki, connu en France sous le nom de Georges Moustaki, tout simplement. Alors, il a une histoire. Alors, pourquoi Moustaki dans cette émission ? Tout simplement parce que Moustaki avait un père qui était italo-grec. On sait que Moustaki est né en Égypte, mais curieusement, dans sa famille, on ne parlait pas comme première langue le grec ou l'arabe, on parlait l'italien. Et pourquoi il a été familiarisé dès son enfance à cette langue italienne ? Parce qu'il avait une tante. Dans la famille, il y avait une tante qui parlait italien. Et par affection pour cette tante, tout le monde s'est mis à parler italien dans la famille. Et pourquoi cette affection a amené à ce point à prendre cette langue comme véhicule linguistique entre les membres de la famille ? Tout simplement parce que cette dame était muette. Et quand elle a retrouvé l'usage de la parole... Elle s'est exprimée en italien. C'était donc sans doute un mutisme accidentel. Mais quand elle a repris la parole, elle a parlé en italien. Donc tous les membres de la famille ont considéré qu'il était logique d'adopter la langue italienne comme langue de la famille. C'est pour ça que Georges Moustaki s'exprimait et chantait en italien très très facilement. Et le fameux Le Métèque, chanson qu'il avait... non pas qu'il avait fait connaître, parce qu'il avait déjà fait beaucoup d'autres chansons, mais qui a permis, qui a donné un essor, on va dire, à sa carrière, avait été traduit en italien par Bruno Laudi, et en italien, elle s'appelle Lo Straniero, l'étranger, et là aussi, en Italie, avec ce titre-là, Georges Moustaki a été en tête de tous les classements considérés comme, disons, de qualité, de chansons de qualité, notamment en octobre 1969. Donc on va écouter cette version du Métèque en italien par Georges Moustaki lui-même, Lo Straniero.
Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non sogno più. Metà pirata, metà artista, un vagabondo musicista che ruba quasi quanto dà. Con questa bocca che berrà a ogni fontana che vedrà e forse mai si fermerà.
con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole dell'estate e mille donne innamorate a maturare la mia età. Ho fatto male a viso aperto e qualche volta ho anche sofferto senza però piangere mai. E la mia anima, si sa, in purgatorio finirà, salvo un miracolo oramai. Con questa faccia da straniero, sopra una nave abbandonata, sono arrivato fino a te. E adesso tu sei prigioniera di questa splendida chimera, di quest'amore senza età. Sarai regina e regnerai, le cose che tu sognerai diventeranno realtà. Il nostro amore durerà per una breve eternità, finché la morte non verrà. Il nostro amore durerà per una breve eternità, finché la morte non verrà.
Voilà Dominique, Georges Moustaki.
Magnifique.
Italien. Bon, hein?
Je chante bien en italien.
Ah oui,
ah oui.
Avec un accent parfait.
Ah oui.
Alors, la dernière fois, on vous avait parlé de cet échange entre Gosaldo et Saint-Marcel, durant lequel on avait fait réaliser plusieurs interviews. On va continuer avec, dans l'ordre, Guerino Marcon et Tarcisio Bressan, habitants de Gosaldo, qui ont cette particularité d'avoir travaillé un moment en France, d'être retournés dans leur pays. Enfin, ils vont nous raconter tout ça.
Très bien. Alors, je crois que vous avez une histoire un petit peu particulière à nous raconter, qui intéresse probablement beaucoup nos auditeurs. Vos relations avec l'Italie, votre pays, le pays où vous êtes né, vous avez vécu en France. Est-ce qu'on peut commencer par vous? Alors, vous êtes
Marcon Guerino. Et je suis né à Gosaldo. Et à l'âge de moins de 2 ans, j'ai émigré en France, à Quincy, dans le Cher.
Vous avez émigré en France, c'est-à-dire que vous avez suivi vos parents, j'imagine.
J'ai suivi mes parents, oui. Mon père était déjà là en 1954 et on l'a suivi avec le reste de la famille en 1955. La date d'entrée en France, c'est 25 juin 1955. Et là, j'ai fait toutes mes études, j'ai grandi et j'ai passé un CAP de tourneur. J'ai travaillé 3 ans dans les établissements Garnier à Foissy. Et on travaillait pour l'armement, on travaillait pour Sud Aviation, on faisait des pièces pour le Concorde, pour les Mirages, enfin des trucs qui servent pour faire la guerre pratiquement. Et après, à l'âge de 20 ans, étant donné que ma mère était un petit peu trop sévère, et alors, pour avoir un petit peu de liberté, j'en ai profité avec mon frère pour revenir faire mon service militaire. Comme ça, après, je suis resté en Italie, et j'ai trouvé du boulot, j'ai trouvé ma femme, et je suis toujours en Italie.
Et voilà. Votre père, quel métier faisait-il quand il est venu en France?
Mon père, alors, il serait parti pour faire le chaisier, mais quand il est arrivé en France, alors il a trouvé du travail chez un vigneron, parce qu'à Quincy, c'était un vin d'appellation contrôlée, ils avaient besoin de main-d'œuvre dans les vignes, alors il a toujours fait l'ouvrier viticole.
Alors, vous êtes retourné en Italie avec votre frère pour retrouver un petit peu de
traviricolette
et de liberté, et vos parents sont restés, eux?
Mes parents sont restés avec le troisième frère et ma petite sœur qui était petite. Ensuite, le troisième frère aussi est revenu en Italie. Et ensuite, mon père est mort, et alors ma mère et ma sœur sont venues aussi en Italie.
Et lorsque votre père est parti en France, il avait déjà des points de chute avec des familles italiennes qui étaient là?
Oui, alors il avait 2 frères qui étaient déjà en France avant la guerre, et qu'ils étaient restés là, donc ils étaient devenus français. Alors, il habitait en Corrèze, il est toujours resté en Corrèze, Et l'autre, il est, au début, il était dans l'Indre avec... et ensuite, il est dans l'Indre, il y avait aussi un oncle. Donc, il était marié avec la sœur de mon père. Et lui, ils sont établis dans l'Indre, ils sont toujours restés dans l'Indre, les descendants, et c'est des Pongans, entre autres. Et ils sont toujours là, enfin, ceux qui sont encore vivants. Le frère qui s'appelait Eugène, c'était le plus jeune, et c'est lui qui a trouvé du travail à mon père, et qui l'a fait venir en France, et de là, on est toujours restés ensemble.
Et quand vous êtes retourné en Italie, vous avez trouvé le même type de travail, de fabrication de pièces métalliques, si j'ai bien compris, assez spécialisées.
En Italie, quand j'ai fini le service militaire, alors il y avait la crise, à l'époque c'était la crise après la guerre du Kippour, donc il n'y avait pas d'embauche. Alors en attendant, on a fait une saison en Allemagne à faire des glaces.
Comme beaucoup de gens de cette région.
Voilà. Et quand on est revenu, à peine revenu d'Allemagne, on a su qu'à la Luxottica, ils embauchaient. Alors on est allé à la Luxottica et j'ai passé les 35 ans.
Qui est la grande fabrique de lunettes de Agordo.
Voilà.
Bien, bien. On comprend pourquoi Guarino est le traducteur de la délégation de Gosaldo.
Évidemment, évidemment. et comment vous regardez ces années, bon, celles qui sont un peu loin maintenant, les années vécues en France, et puis celles que vous vivez maintenant, est-ce que vous avez une nostalgie? Est-ce que vous avez des regrets?
J'ai une certaine nostalgie, oui. Et disons que moi, je m'y trouvais très bien. Disons que si ce n'était pas pour cette raison, je serais probablement encore là. Disons, parce que moi, je me trouvais bien. Disons que ma façon de penser, ma culture est, je peux dire, pratiquement française, parce que quand on a passé toutes les premières années de sa vie dans un pays,
on est du pays.
Et disons que j'y suis retourné, ça fait pas longtemps, mais ça fait un peu mal de...
Il n'y a plus personne
qu'on connaît pratiquement.
Les
vieux, ils sont tous morts. Les jeunes, enfin même les gens de mon âge, ils sont partis travailler dans... Qui à Paris, qui à Saint-Étienne, qui à... Et quand ils vont travailler dans un autre pays, ils achètent, ils construisent dans ce pays. Et donc,
comme les gens qui sont restés en France et qui sont retournés... Plus tard dans leur pays, il y a du décalage aussi. Et
oui.
Chaque fois, quand on revient plus tard, on a moins de repères. Ça,
c'est sûr.
Alors, je vais être un peu indiscret. Vous avez des enfants
et alors,
vous leur parlez aussi en français
Non, parce que c'est pas facile de parler en français quand on est, quand on est tout seul dans une famille.
Oui.
Il faudrait au moins être deux pour pouvoir faire une conversation, parce que sinon, c'est très difficile.
Et puis, on sort du contexte.
Voilà. Mais disons, ma fille, elle s'arrange, même parce qu'elle a étudié à l'école, soit en sixième que même après au lycée, elle faisait du français, elle faisait de l'anglais et elle faisait même de l'allemand. Donc, disons que ensuite elle a fait plusieurs séjours à Paris toute seule, comme ça, enfin, elle se débrouille, disons. Voilà.
Bien, bien.
Très bien.
Merci, Guarino.
Merci.
Merci à vous.
Alors,
je me tourne vers vous. Votre prénom?
Bressan Tartuffe.
Alors, vous aussi, vous avez une histoire un petit peu particulière avec la France. Est-ce que, en quelques mots,
avec
vous pouvez
la France,
nous la raconter?
À mon âge, j'étais encore jeune, parce que j'avais 14 ans. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de travail vers notre pays. Il n'était pas développé encore. C'était tout le monde, le travail, il faisait des chaises. Et alors, mon papa, il travaillait à Lyon, il était charpentier. Et puis, il m'a porté là, avec un monsieur de mon pays. J'ai fait 8 mois avec, en faisant des chaises. Mais on travaillait sur une maison, et puis on changeait. Quand on avait fini, on allait dans une autre. Et j'ai fait 8 mois comme ça.
Comme Gaburo.
Comme Gaburo.
Tachi, tu peux expliquer ce qu'est un gaburo?
Gaburo, ça veut dire un jeune que c'est la première fois qu'il travaille, il vient faire des chaises avec quelqu'un qu'il ne connaît même pas. C'est un patron que moi je ne connaissais même pas. Et puis il faisait comme ça serait mon père. Ça.
Et alors, comment est-ce qu'on apprenait à faire ce travail? On regardait les gestes de...
Ah non, on faisait même 11, 12, 13 heures par jour. Puis on commençait avec la scie, nous, les premiers jours, pour fendre le bois, nous, on nous renseignait comme il fallait faire. Puis, au bout de 15 jours, ben, on apprenait beaucoup de choses.
Alors moi qui ne connais pas du tout ce métier, elles sont en quel bois, ces chaises?
Ben, ça dépend.
Ça dépend.
Ben, moi, j'ai fait vers Paladru, lac de Paladru, on a fait presque tout le tour en 8 mois. Et puis il y avait beaucoup de cerisiers, châtaigniers, noyers. Et on en faisait 6-7 par jour.
Et il fallait un bois dur et un bois plus
souple. Oui, j'allais dire, châtaignier c'est très dur, non?
Non, c'est tendre.
Ah, j'ai dit bêtise alors.
Non, ça se travaille
d'accord,
bien. D'accord. C'est que seulement les barreaux, il fallait que ça soit du bois sec.
Oui.
Et puis les montagnes, ils pouvaient être verts. On allait même les couper dans la forêt.
Oui.
Et puis. Mais moi, les premiers temps, on faisait. Ces barons, les mesures qu'il nous faisait couper. Et puis lui, pendant ce temps, il travaillait, il en mettait deux debout. Et puis nous, et Gabour, il commençait à les rempailler. Et là, on apprenait. Mais c'était des travailleurs, parce que un qui fait 6-7 chaises avec un gamin, ben, il faut bosser.
Dans la journée?
Ouais, c'est.
Ah oui.
Dans la journée.
C'est énorme.
Ouais, c'est.
C'est des conditions très difficiles.
Vraiment, ouais. Parce que c'est tout fait à la main. Ouais. Il y avait des fois qui trouvaient des scies à ruban, alors ils faisaient des tranches et puis les découpaient. Alors là, il fallait moins de bois, ils récupéraient du bois. Et après, j'ai fait 8 mois, après, je suis retourné en Italie pour faire des vacances. Puis je suis retourné, mais j'ai trouvé une place dans une fabrique qui faisait des chaises et des fauteuils, ici à Les Granges de Montagneux.
Mmh.
Et ce matin, je suis allé faire un tour pour faire voir à ma femme et puis sa femme et lui, où c'est qu'on habitait dans la maison, où c'est qu'on habitait. Et là, il a été lui aussi parce que... Mais après moi, un an et demi, je suis parti parce que j'ai eu mes 18 ans. Et je suis allé en Suisse, parce qu'on gagnait beaucoup plus.
Pour gagner plus d'argent?
Ah oui.
D'accord. Et pour faire quel travail?
Sur les barrages.
Ah, sur les barrages. Sur quel barrage à ce moment-là?
Moi, je travaillais sur les barrages de Toul et sur les Grigeons en Alpes. Le barrage de Alpes. Mais c'était très haut comme altitude. Il neigeait même le mois d'août, là.
Oui.
Mais on gagnait... Gagnait beaucoup. Mon père, il n'avait pas beaucoup de santé parce qu'il était opéré à Luxeuil. Et puis, il avait toujours de la peine. On était 5 et puis la maman. On avait... C'était des pays très durs. Hein. Et j'ai fait 8 ans en tout, en Suisse. Et puis après, je suis rentré à Gosaldo et je suis allé faire l'infirmier.
Ah oui?
J'ai fait l'infirmier pendant 25 ans.
Donc vous êtes passé des barrages,
ouais.
De la chaise
des barrages, et puis après la médecine en quelque sorte.
J'avais jamais vu.
Ah oui.
Puis ils m'ont fait faire l'école.
Oui. Combien de temps, l'école?
L'école, j'ai fait un an.
Un an.
On travaillait, on faisait l'école. Mm. Oui, il n'y avait pas les difficultés qu'il y a maintenant, parce que maintenant, on ne pourrait pas faire ce que j'ai fait, moi.
Non.
Mais l'école, c'était où, à Belluno?
À Cortina d'Ampezzo.
À Cortina.
Parce qu'après, j'ai travaillé dans les salles opératoires, au secours, et puis dernièrement, j'ai fait 12 ans infirmier d'hélicoptère.
Waouh!
En montagne?
En montagne, en plaine, un peu de partout. C'était un travail qui. J'ai fait des années que je ne les ai même pas vus passer. C'était vraiment.
Très très impressionnant quand même. Là, passer de la chaise comme ça
à
secours en hélicoptère,
ce que j'ai souffert quand j'étais très jeune, j'ai récupéré.
Oui, voilà. bien sûr.
Parce que moi j'étais toujours avec les anesthésistes et je peux dire que j'avais. C'était un travail qu'on était récompensé, on était quelqu'un.
Oui, j'imagine.
Mmh. Et puis moi, que je n'avais pas fait d'école, j'avais, parce que l'école, j'ai même pas fait l'école, les supérieurs, j'avais pas fait, j'avais fait jusqu'à les 5 ans d'école, et j'aurais même pas pu faire l'école d'infirmier.
Oui.
Mais le premier, le médecin qui commandait, il me l'a fait faire parce que j'étais bien aimé, je savais faire mon travail. Et j'ai fait une route que ça m'a récompensé.
Alors, vous parlez parfaitement le français. Est-ce que vous avez l'occasion de parler le français à Gosaldo?
Ben, je parle français parce que j'ai fait 5 ans ici et j'en ai fait 8 ans.
En Suisse?
En Suisse. Et il parlait français.
Oui. Oui, mais
et alors j'ai gardé un peu.
Oui, oui. Et là maintenant, pardonnez-moi, vous avez des occasions pour en parler
De temps en temps, oui, parce qu'il y a mon beau-frère, il était suisse. Et mon beau-frère, il était suisse, maintenant il est mort, purtroppo. Il était très jeune. Et il venait toutes les années en vacances, alors on parlait. Puis tous les étés, il y en a qui viennent, qu'on a l'occasion de parler.
Et le
grand
Saint-Marcel, il a parlé
régulièrement,
une fois par an,
régulièrement. Il y a des mots qui. Mais enfin, je m'arrange, je me rappelle encore bien.
Alors.
Voilà, alors, étonnant parcours, hein, Dominique. Oui. Vraiment, un parcours très étonnant et deux personnes admirables, qui en plus, au niveau linguistique, comme tu le faisais remarquer, parlent français. Alors, c'est curieux d'ailleurs, chacun des deux avec un accent qui est originaire des régions qu'ils ont pu côtoyer, voire pays, avec Guérino et sa région centre française, et Tarchit, son passage en Suisse, visiblement, avec ce petit accent qui rappelle un peu l'accent suisse. Mais c'est vraiment des parcours intéressants, et deux personnes vraiment de grand niveau.
Ce que je trouve admirable, c'est la simplicité de la communication.
Absolument,
il me semble. Hein, c'est des choses complètement naturelles, alors que finalement, si on y regarde de près, ça n'est pas autant que ça.
Alors, si vous entendez dans ces interviews quelques tout petits bruits, c'est parce qu'elles étaient faites en direct lors de la soirée. Voilà. Alors, lors de la soirée, justement, il y a eu plusieurs événements dans cet échange. Lors de la grande soirée, disons, Guérino, Tarcisio et d'autres ont chanté Quel Mazzolin di Fiori, qui est une des chansons traditionnelle italienne, les plus connues en Italie, mais qui a aussi été beaucoup chantée en France par les immigrés italiens. Cette histoire, ce petit bouquet de fleurs qui vient de la montagne, ce petit bouquet de fleurs, ne fais attention de ne pas le mouiller parce que je veux leur en faire cadeau à mon amoureux. C'est une jeune fille qui part, mais voilà, l'amoureux, il est allé voir une autre personne, une autre fille, et puis c'est l'histoire d'amour déçu. Et c'est une chanson qu'on dit d'origine piémontaise et qui était chantée aussi dans le Haut-Roya, dans l'arrière-pays niçois. Elle a été aussi chantée en France. Alors, il y a un enregistrement qui existe aussi. Enfin, il y a eu nombreuses versions, mais il y a eu un enregistrement qui existe par les compagnons de la chanson, qui en 1958 l'ont chantée en italien. Et pourquoi ils l'ont chantée en italien? Parce que Fred Mella, qui était le leader des compagnons de la chanson, qui est né à Annonay, est en fait né de parents italiens. Et il est reparti quasi tout de suite en Italie après sa naissance parce que sa maman a eu des problèmes de santé, de maladies pulmonaires, et elle a voulu retourner dans le Piémont. Et Fred Mella a vécu dans le Piémont jusqu'à l'âge de 13 ans, et ce n'est qu'à l'âge de 13 ans qu'il est revenu dans la région lyonnaise d'ailleurs. Et voilà pourquoi il parle et chante en italien couramment, et il a lui-même chanté avec les compagnons de la chanson cette chanson, Quel Mazzolin di Fiori. Là, on va l'entendre non pas par les compagnons de la chanson, mais par un groupe qui s'appelle I Paesani, et c'est un enregistrement de 1975.
Quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, e bada ben che non si bagna, che lo devo regalare, bada ben che non si bagna, che lo perché
Quel mazzolin di fiori. Il y a une belle ambiance dans la soirée avec cette chanson.
Oui.
Une chanson qui a été chantée aussi sur les trottoirs de l'île d'Abeau il y a bien, bien, bien longtemps, et de Bourgoin aussi par les immigrés italiens. Voilà, alors Tarcisio parlait à un moment, il disait lui et sa femme, etc. En fait, il parlait de son frère qui était à côté de lui dans l'interview que tu as faite, Dominique, et qu'on a réalisé donc lors de cette soirée. Et on va écouter son frère maintenant qui s'exprime lui en italien et on comprendra pourquoi.
Voilà.
Quand Tarcisio parlait de lui, il parlait de son frère qui est avec nous aussi. Alors.
Ma parla in italiano.
Ah, in italiano, dunque, di nome?
Bressan Giovanni Pietro.
Giovanni Pietro che è vice sindaco
del comune di Gosalla.
Del comune di Gosalla. Dunque la storia è un po' diversa del fratello, no?
Molto diversa, allora, anche perché l'esperienza mia in Francia è stata tutta diversa.
Sì. Perché un po' brutta se aveva capito, no?
Brutta? Avevo 13-14 anni che ero qua, partendo dal mio paese, venendo in una nazione dove non conoscevi nessuno, è stato un trauma. Allora, purtroppo dopo, per il nulla osta per andare a lavorare, ho dovuto andare a scuola qui in Francia, a Verigiù. Sono andato a scuola perché fino a 15 anni in Francia non ti lasciavano andare a lavorare, eri obbligato ad andare a scuola, no? Allora, perciò sono venuto via dall'Italia per non andare a scuola, diciamolo francamente. Ho dovuto andare a scuola in una terra straniera dove non capivo niente.
E i genitori dove erano?
No, i genitori, io sono venuto in Francia dopo 4 anni,
dopo
il Tarcisio, e con mia mamma e tutta la famiglia. Mio papà e Tarcisio erano già qua. E io sono venuto con mia sorella, due sorelle e io e mia mamma. Mio papà aveva trovato, come diceva mio fratello, avevano trovato lavoro in questa fabbrica Le Grange, e la fabbrica gli ha dato l'alloggio, la maison a mio padre, e lui ha fatto venire in Francia la famiglia.
E tu dopo la scuola hai fatto il soggiorno?
No, ho fatto niente. Io al massimo qui portavo a quelli che gli ordinavano mio padre qualche sedia.
La consegna?
E la consegna, basta.
E dunque quanto tempo sei rimasto in Francia?
Un anno e mezzo.
Ah sì, non più?
Più o meno.
E sei tornato?
E siamo tornati in Italia.
Con la mamma?
Però
tutti.
Io sono andato via, sono andato in Svizzera.
Quando loro sono andati in Svizzera.
E noi siamo tornati in Italia. Però io in fabbrica, ho collaborato anch'io alle Grange nella fabbrica, ho cominciato a fare il tappezziere in stoffa. Quando siamo tornati in Italia, io ho continuato ad andare a fare l'apprendista da tappezziere. Ho fatto ancora 2 anni. Apprendista, dove che non ti davano la paga. Ho imparato il mestiere e dopo 2 anni che eravamo tornati in Italia più o meno sono andato a Milano a fare il tappezziere e sono rimasto per 15 anni
a Milano.
Dopo avermi formato la famiglia e tutto così, la moglie gli piaceva molto, che è di Rivamonte, un paese vicino a Gosaldo. Gli piaceva Gosaldo, abbiamo avuto un figlio e siamo tornati da Milano a Gosaldo. Ho lavorato per 4 anni e mezzo anch'io alla Lusottica degli occhiali e poi ho fatto concorsi così, ho vinto il concorso e sono andato dipendente del comune, nel comune di Gosaldo. E ho fatto altri 15 anni nel comune di Gosaldo, poi è arrivata, era la facoltà di andare in pensione abbastanza giovane, perché io sono andato in pensione a 51 anni e sono andato in pensione e dopo ho fatto altre esperienze di lavoro, per esempio ho fatto il panettiere per mio figlio e così adesso sono diventato amministratore
e
vice sindaco.
Benissimo. Beh, storia diversa,
interessante.
Grazie a tutti, grazie a Guerino,
grazie a voi.
E ci vediamo Forse l'anno prossimo.
Speriamo.
Ciao, ciao. Voilà, alors là, c'était l'interview donc de Giovanni Pietro Bressan, qui est le premier adjoint de la mairie de Gosaldo. Alors, il nous explique son parcours qui est effectivement différent de celui de son frère, puisqu'il a parlé même de traumatisme de son arrivée en France, où il est arrivé en France, il avait 13-14 ans, dans un pays, dit-il, inconnu, je ne connaissais pas la langue, je ne connaissais personne, et il a dû, en plus, aller à l'école. Alors il dit, moi, j'ai quitté l'école en Italie, je n'avais plus trop envie d'y aller, et je me retrouve dans un pays où on m'oblige d'aller à l'école, parce que je ne pouvais pas travailler, et faire un an d'école dans un pays que l'on ne connaît pas, avec des gens que l'on ne connaît pas, et en plus, ne pas spécialement aimer l'école, et ne pas connaître la langue. Il a dit que pour lui, ça a été très, très dur. Il est donc venu 4 ans après son frère qui était là, il l'avait expliqué, et il l'a rejoint. Il est venu donc avec sa maman et le reste de la famille, c'est-à-dire deux sœurs. Et, puisque le père, lui, avait un travail aux granges, c'est près de Montagneux, et il avait, par ce travail, obtenu un logement de son entreprise. Il avait fait ce qui était assez courant dans le cas des immigrations, venir le reste de la famille après. Il y avait toujours quelqu'un en éclaireur et la famille qui venait derrière. Mais bon, il se trouve que... Alors lui, dit-il, il n'a pas fait le métier de chaisier, contrairement à la plupart, tout au moins de ceux qui venaient des Dolomites. Mais il avait quand même une petite action, puisqu'il livrait les chaises quand même. Mais il ne les fabriquait pas. Il est resté donc 1 an et demi en France, et puis il est reparti en Italie. Donc son passage est vraiment très, très bref. Mais il a été content, lui aussi, de retrouver le lieu où il était venu quand même, malgré une expérience un peu plus difficile, on va dire. Alors après, il avait commencé d'ailleurs, avant de venir en France, d'apprendre le métier de tapissier, mais c'est tapissier d'ameublement, c'est sur les fauteuils, etc. Et puis les murs. Il a, à son retour, il a donc repris ce métier d'apprenti pendant 2 ans. C'est-à-dire pendant 2 ans, il n'a touché quasiment pas de paye. Et après, il est parti avec ce métier à Milan. Et il est resté 15 ans dans la capitale lombarde, donc Milan. Et puis il est revenu à Gosaldo. Comme beaucoup de gens, il a trouvé du travail à cette fameuse Luxottica, qui est encore une entreprise qui permet d'avoir pas mal d'emplois dans les vallées là-bas de montagne. Et puis après 15 ans à la Luxottica, il a passé un concours administratif et voilà comment il a été embauché à la commune comme employé administratif. Et il a une retraite assez jeune parce qu'une époque, on pouvait avoir une retraite assez jeune en Italie, ce qui, comme dans beaucoup de pays d'Europe, maintenant a bien changé. Et il avait donc été retraité à 51 ans, ce qui fait qu'après, il avait quand même fait quelques petits travaux. Notamment, il était boulanger avec son fils. Et puis, en tant qu'élu maintenant de Gosaldo, il est bien occupé par cette fonction. Voilà donc un parcours de deux frères étonnamment différents, finalement, et c'est qui fait l'intérêt. Et toi qui t'occupes pour Inis du groupe qui travaille sur
l'immigration
et sur toutes les interviews qui ont été faites, je crois que c'est un enseignement général qu'on peut avoir.
Il y a des cas d'école là.
Il y a des cas d'école et puis des parcours étonnants.
Ouais.
Tu veux en dire deux mots de ce travail sur l'immigration?
Ce travail sur l'immigration, pour l'instant, il en est à ses prémices, ou plus exactement, la première phase est quasiment achevée. La première phase qui consistait à aller voir des gens. Qui ont émigré et puis immigré, et donc à les interviewer pendant une heure au moins. Donc cette première phase-là est achevée avec 25, une petite trentaine pour l'instant d'interviews.
Assez long. Oui.
Donc il y a un groupe qui s'est constitué à l'intérieur de l'INIS pour essayer d'envisager une suite à donner à cette première phase. Et la suite à donner, pour l'instant, elle n'est pas vraiment définie encore. On étudie plusieurs pistes. On va se réunir, j'imagine, une dernière fois le courant du mois de juillet. Et puis là, je crois qu'on va décider de ce que j'appelle au minimum un produit, sinon 2, voire 3, qui seront un peu extraits de tous ces entretiens, qui représentent une matière excessivement riche, humainement, historiquement. Et puis, en ce qui concerne notre région, nos Isères.
Avec des interviews... parfois de libre parole, parfois très pudique.
Tout à fait. Parfois, ça c'est impressionnant.
Beaucoup de choses qui ont été remuées et qui sont difficiles à exprimer.
Tout à fait. Tout à fait.
Des choses très personnelles en fait.
Bien sûr.
Voilà, alors on va en continuer avec nos interviews. Guerino, qu'on a entendu tout à l'heure, parlait de sa fille qui avait appris le français et qui le parlait correctement. Et ben voilà, on va l'entendre, cette jeune fille, Fanny. On va l'entendre parce qu'il était intéressant, à notre avis, de voir comment se déroule pour une jeune fille la vie dans un pays de montagne des Dolomites, un petit village de montagne de Gozaldo. Et elle nous expliquera cette vie à Gozaldo, mais aussi son parcours universitaire et son métier maintenant dans la ville de Padoue, qui est une ville évidemment beaucoup plus grosse en Vénétie. On va donc écouter Fanny Marco.
Io mi chiamo Fanny Marcon, vengo da Gozaldo, ma abito a Padova e ho 28 anni.
E dunque a Padova che tipo di lavoro fai?
Lavoro in un museo dell'università, il Museo di Storia della Fisica, di strumenti scientifici antichi.
E come si fa? Che tipo di studi fai per arrivare a questo tipo di museo?
Ho studiato a Lettere Filosofia, un corso che comprendeva storia dell'arte, del cinema, del teatro. Poi ho fatto domanda per entrare a lavorare in un museo prima di laurearmi. Mi hanno presa in questo museo di storia della fisica e poi ho fatto la tesi sugli strumenti di ottica del precinema, lanterne magiche, camere ottiche, questo tipo di strumenti.
Conosci il Museo del Cinema di Torino, no?
Sì, ci sono andata bellissimo una volta con l'università. E poi a Padova c'è il Museo del Precinema, che ha solo strumenti precinema.
E gli studi dove li hai fatti?
Sempre a Padova, all'Università di Padova.
Benissimo.
E quanti oggetti ci sono in questo museo scientifico?
Sono circa un migliaio di oggetti che vanno dal XVI secolo fino ai primi 30-40 anni del Novecento.
E dov'è a Padova questo museo?
Il museo si trova nello stabilimento del Dipartimento di Fisica in via Loredan.
E i giovani di Gozaldo, quando vogliono studiare, dove vanno? Sempre a Padova o dipende forse dal tipo di studi? No?
Allora a Padova ci sono tantissimi ragazzi di Gozaldo che hanno studiato e stanno studiando, perché è un'università molto completa, ci sono quasi tutte le facoltà. Però tantissimi vanno anche a studiare a Trento, che comunque è sempre abbastanza vicino, o per esempio Udine e Ferrara, che non sono comunque troppo lontane da Gozaldo.
A Padova più o meno quanti ci sono di studenti?
Circa 66.000 studenti.
Ah, una popolazione importantissima.
Sì, è una delle economie, diciamo, principali della città, perché attorno agli studenti poi c'è tutto l'affitto degli appartamenti, gli acquisti, perciò è una parte molto importante dell'economia della città.
E anche la vita della città che deve essere cambiata da questa popolazione studentesca.
Sì, assolutamente, perché comunque sono numeri molto grossi da gestire, ci sono anche problemi magari di schiamazzi notturni, perciò ogni tanto c'è stato qualche problema tra l'università e la città, diciamo tra gli studenti e la città.
A livello Padova, a livello culturale, è sviluppata?
È abbastanza sviluppata, perché comunque oltre ad avere un'università molto importante e la seconda più antica d'Italia, ha una storia ancora più antica, per esempio c'è la Cappella degli Scrovegni di Giotto, c'è l'Orto Botanico, che anche quello è legato all'università, Prato della Valle, che è una delle piazze più grandi d'Europa. C'è, per esempio, molto importante per Padova è stata la presenza di Galileo, che ha insegnato all'università per 18 anni, perciò è molto stimolata culturalmente dalla sua storia.
E com'è la vita a Gozaldo per un giovane?
La vita a Gozaldo per un giovane, diciamo, è un po' difficile, nel senso che se ti devi spostare tanto, anche per andare per esempio al cinema devi andare fino a Belluno e sono 40 km all'andata, al ritorno. Diciamo che per esempio rispetto a una città come Padova hai molte più difficoltà di movimento e ti offre, diciamo, meno stimoli culturali.
Parlavamo della lingua, dunque a Gozaldo tra i giovani come parlate, in italiano o c'è qualche giovane che parla sempre, prosegue con il dialetto o no?
Allora, ci sono molti giovani che parlano in dialetto e alcuni che parlano sia dialetto che italiano e che invece riesce a parlare solo l'italiano e fa più difficoltà con il dialetto, come per esempio io.
E lo capisci però?
Capisco bene il dialetto perché per esempio i miei nonni mi hanno parlato in dialetto quando ero piccola, però non lo parlo bene, faccio proprio fatica.
E quando ti trovi a Padova è un dialetto diverso?
A Padova c'è un dialetto completamente diverso, e che è più veneto, anche se poi comunque in tutte le zone del Veneto si parlano dei dialetti molto anche diversi tra loro. Per esempio il dialetto veneziano è già completamente diverso da quello padovano,
quello di Rovigo,
di Padova, di Treviso ad esempio.
E al lavoro come parlate in italiano?
Al lavoro parliamo sempre in italiano e poi capita che parliamo per esempio in francese o in inglese a seconda se abbiamo magari ospiti o qualcuno che viene da qualche altro paese.
Dunque il tuo lavoro dentro il museo, come si svolge una giornata tua?
Allora dipende dai periodi, allora diciamo che il lavoro di base di un museo è curare la collezione, perciò la catalogazione, lo studio degli strumenti, perché comunque è un museo che solo da una trentina di anni ha una certa importanza, nel senso che per anni...
Alors Fanny, comme disait notre technicien préféré, il se demandait si on avait fait l'interview dans une cathédrale. Non, c'est pas dans une cathédrale, mais en fait c'est sur le lieu d'une ancienne chapelle, puisque c'est au musée de Bourgoin. Comme quoi, quand on est technicien à Couleur FM, on a quand même de l'oreille. Hein. Voilà, alors c'est ce qui explique ce côté écho que l'on entend derrière la voix et la belle langue italienne de Fanny. Ah oui. Qui nous explique donc qu'elle est née à Gosaldo, qu'elle vient de Gosaldo, mais qu'elle a fait toute seule à 28 ans, elle nous dit qu'elle a 28 ans, et qu'elle travaille au musée de l'université de Padoue, qu'elle est pour un musée qui traite de l'histoire de la physique. En fait, elle a fait une formation lettres et philo, elle s'est spécialisée aussi en art, théâtre et cinéma, c'est très complet tout ça, hein. Comme souvent d'ailleurs. Elle avait cherché à travailler comme étudiante avant son diplôme, et comme elle a travaillé dans ce lieu, elle a été prise et elle a fait en fait une thèse sur les instruments optiques pré-cinéma. On lui a demandé d'ailleurs si elle connaissait le musée de Turin, un musée du cinéma qui est assez réussi, du cinéma italien. Elle le connaît, bien entendu, mais elle nous signale aussi qu'à Padoue, il y a un musée du pré-cinéma qui est également très intéressant. À ta question sur le nombre d'objets qui peut exister dans ce musée dans lequel elle travaille, elle disait qu'il y avait un millier d'objets qui vont du 16e siècle à la première moitié du 20e et qu'ils se trouvent via Loredan, qui est dans le centre de Padoue. Alors, pourquoi elle est allée à Padoue ? Parce que les jeunes de Gosaldo, en fait, dès qu'ils passent aux études supérieures, ils vont à Padoue, à Trento, à Ferrare, à Udine, qui sont tous, bien qu'étant dans des régions différentes, Padoue est en Vénétie, mais Trento est dans le Trentin, Udine dans le Frioul, etc. Et ce sont des régions qui, finalement, sont assez proches. À Padoue, elle nous dit aussi que c'est une ville très jeune et très étudiante, puisqu'il y a 66 000 étudiants, ce qui est une partie importante de l'économie de local. Padoue. Et l'université de Padoue est la deuxième université italienne par son ancienneté. Donc pour Padoue, encore une fois, c'est important parce qu'il y a une location d'appartements, il y a de la consommation, des achats. Alors, avec humour, elle dit que parfois c'est un peu difficile pour certains habitants parce que les étudiants, ils ont l'habitude quelquefois d'étudier, mais quelquefois aussi de faire un peu la fête. Alors, c'est un peu perturbateur, mais ça a l'air d'être dans des proportions assez correctes quand même. Sinon, elle nous fait un petit aperçu touristique et culturel de Padoue en nous signalant notamment cette belle, s'appelle des Scrovegni, oui. Avec Giotto. Et elle parle du jardin botanique, elle parle aussi du lien qu'avait Galilée avec Padoue puisqu'il y a étudié pendant 18 ans. Et elle fait évidemment, après, c'est nous un peu qui lui demandons par rapport à la vie à Gosaldo par rapport à quelqu'un qui après fait des études à Padoue. Alors bien sûr, elle dit qu'à Gosaldo, ce qui est difficile, ce sont les déplacements parce que c'est en montagne,
que, par exemple, pour aller au cinéma, comme il n'y a pas de cinéma dans le village, il faut aller à Belunos, qui fait un aller-retour de 40 km, et qui, évidemment, un village de montagne offre moins, enfin, une offre culturelle moins importante. Et puis, on lui demande aussi de parler de la langue, parce que la langue est quelque chose d'important en Italie. On dit souvent que les Italiens sont automatiquement bilingues, c'est-à-dire qu'ils ont la langue italienne et plus la langue régionale. Elle le confirme en disant que beaucoup de jeunes de Gosaldo parlent en dialecte, d'autres parlent de temps en temps en dialecte, de temps en temps en italien. Certains ne parlent qu'en italien, mais ce ne sont pas les plus nombreux, visiblement. Elle dit qu'elle comprend très bien le dialecte que lui parlent encore ses grands-parents, mais qu'elle ne le parle pas, elle, très très bien. Enfin, mais comme elle est un peu modeste, j'ai quelques doutes quand même. Et elle nous explique aussi qu'en Vénétie, il y a des dialectes différents, puisque Padoue étant en Vénétie, a un dialecte différent de Gosaldo, par exemple, qui est plus proche du ladin. Et puis Venise a un dialecte différent de Padoue, bien qu'étant dans la même région. Trévise aussi, Rovigo aussi. Par contre, au travail, entre membres du personnel, comme ils viennent tous un peu de coins un peu différents, ben, ils parlent l'italien, bien sûr. Et comme il y a de nombreux visiteurs, il leur arrive souvent de parler, et il lui arrive à elle de parler souvent anglais et français. Elle va continuer à nous expliquer ce qu'est son travail dans ce musée. Et puis, elle nous parlera aussi du musée de Bourgoin, puisqu'on y était, et puis de sa perception de cet échange entre Gosaldo et Saint-Marcel.
Stati un po' dimenticati, e solo da 30 anni, grazie a un professore e poi alla conservatrice attuale, sono stati recuperati. Perciò c'è un grosso lavoro da fare proprio sulla catalogazione e lo studio degli strumenti. Poi si organizzano, per esempio, delle mostre temporanee, sia piccole a livello magari di dipartimento, di università, che molto grandi, come per esempio quella che c'è stata 4 anni fa organizzata dalla conservatrice del museo e dal professore di storia della scienza su Galileo e l'anniversario delle prime osservazioni col cannocchiale, che ha richiamato centinaia di migliaia di visitatori a Padova per questa mostra.
E come la vedi la storia di l'inizio, diciamo, come lo vedi l'inizio di questo scambio che forse speriamo durerà tra Gosaldo e Saint-Marcel?
Ma secondo me è una cosa veramente molto bella. Poi io la sento molto, perché avendo avuto tutta la famiglia di mio padre emigrata in Francia, la sento, e avendo ancora una parte della famiglia che abita in Francia, la sento molto. E penso che sia veramente una cosa utile sia per le persone di Gosaldo, per riscoprire e ricordare una parte importante della loro storia, sia per le persone che abitano qui ormai da tanti anni, magari sono nati qui, di riscoprire le loro radici, da dove vengono. Esatto.
Dunque ci troviamo a Bourgoin, nel museo di Bourgoin. Come lo trovi questo museo?
È molto bello, molto interessante. Anche
è un campo che conoscevi, quel tipo di lavoro?
No, avevo già visto musei sui tessuti e sull'abbigliamento, per esempio quello di arti decorative di Parigi, che è una parte dedicata al tessile e alla moda, però non avevo mai visto un museo dedicato proprio alla lavorazione, per esempio, del bacco da seta e di un tessuto in particolare, con gli strumenti e tutto il percorso della lavorazione.
E a proposito dell'organizzazione dello spazio, cioè il modo di mostrare non so, le vetrine, gli oggetti, eccetera, cosa ne pensa?
È molto bello, anche perché non risulta mai noioso, pesante, anche perché riescono a integrare bene tutta la parte, diciamo, più tecnica, tecnologica delle macchine alla parte più artistica, per esempio di tessuti, della stampa dei tessuti, e anche appunto un richiamo, per esempio, alla moda. Ci sono qualche vestito d'epoca, che è molto interessante perché riesce a vedere tutto, perciò l'esposizione secondo me rende bene, riesce a mescolare bene questi diversi aspetti della lavorazione della seta.
Grazie
a voi, grazie.
Voilà, alors Fanny nous dit qu'elle s'occupe dans son musée de Padoue des collections, de l'archivage, des catalogues, que l'archivage a été depuis 30 ans bien développé dans ce musée grâce à un prof d'université à la conservatrice. Et c'est un gros travail, ce travail d'archives et des instruments à répertorier. Et puis elle dit qu'il y a aussi des organisations d'expos temporaires, notamment quand il y avait eu l'année Galilée, et là il y avait eu des milliers et des milliers de visiteurs.
Sinon, elle nous parle aussi de l'échange avec Saint-Marcel. Elle ressent profondément cet échange. Elle espère motiver d'autres jeunes de Gosaldo. Et comme ça, la famille de son père avait émigré en France puis est revenue en Italie, pour elle, cela bien sûr la touche. Elle dit que c'est utile pour les jeunes générations de Gosaldo et de Saint-Marcel. C'est utile parce qu'ils doivent connaître leur histoire. On a toujours besoin de connaître son histoire, en fait. Hein. Et puis, quant au musée de Bourgoin, elle le trouve très intéressant. Elle avait déjà visité des musées du tissu, mais de l'habillement en Italie ou en France, notamment à Paris. Mais elle trouve que celui-là est très complet car il comporte une partie technique avec les différents métiers, les instruments, etc., l'élevage des vers à soie, mais aussi une partie artistique avec des expos de vêtements et des œuvres et quelques rappels à la mode aussi. Elle le qualifie de jamais ennuyé, justement pour ce mélange entre la technique et l'artistique. Fanny, une personne de Gosaldo, encore une fois, elle aussi bien intéressante. Alors l'autre jour, enfin la dernière émission, on avait parlé de Buzzati, Dino Buzzati, qui est un écrivain alors, décédé maintenant, mais des Dolomites, et tu voulais nous en lire un passage,
l'extrait d'une nouvelle de son recueil le plus connu, hein, Le Cas. Donc la nouvelle s'appelle Les Bosses dans le jardin. Alors voilà, on va terminer l'émission avec Dino Buzzati, une langue magnifique. Même la traduction ne réussit pas à trahir cette langue très très belle. Quand la nuit est tombée, j'aime me promener dans le jardin. Ne croyez pas que je sois riche. Un jardin comme le mien, vous en avez tous. Et plus tard, vous comprendrez pourquoi. Dans l'obscurité, mais ce n'est pas pourtant complètement l'obscurité, parce qu'une douce réverbération provient des fenêtres allumées de la maison. Dans l'obscurité, je marche sur les pelouses. Mes chaussures enfoncent un peu dans l'herbe, et ce faisant, je pense, et tout en pensant, je lève les yeux pour regarder si le ciel est serein, s'il y a des étoiles. Je les observe en me posant des tas de questions. Pourtant, certaines nuits, je ne me pose pas de questions. Les étoiles sont là-haut, au-dessus de moi, parfaitement stupides, et ne me disent rien. J'étais un petit garçon, lorsque, au cours de ma promenade nocturne, je butais sur un obstacle. Ne voyant pas ce que c'était, j'allumais une allumette. Sur la surface lisse de la pelouse, il y avait, chose étrange, une protubérance. Peut-être le jardinier aura fait quelque chose, pensais-je. Je lui demanderai demain matin. Le lendemain, j'appelai le jardinier. Il se nommait Giacomo. Je lui dis, « Qu'est-ce que tu as fait dans le jardin? Il y a comme une bosse sur la pelouse. Hier soir, j'y ai buté, et ce matin, je l'ai vue comme le jour se levait. C'est une bosse oblongue et étroite. Elle ressemble à un tumulus mortuaire. Veux-tu me dire ce que cela signifie ?»« Elle ne ressemble pas seulement à un tumulus mortuaire, monsieur, » dit le jardinier Giacomo. « C'en est vraiment un. Parce qu'hier, monsieur, un de vos amis est mort. » C'était vrai. Mon meilleur ami, Sandro Bartoli, était mort en montagne, le crâne fracassé. Il avait 21 ans. « Tu veux dire que mon ami a été enseveli ici, dis-je, à Giacomo ?»« Non, répondit-il. Votre ami, M. Bartoli, il s'exprimait ainsi parce qu'il était de la vieille génération, et pour cette raison encore respectueux, a été enseveli au pied de la montagne, que vous savez. Mais ici, dans le jardin, la pelouse s'est soulevée toute seule, parce que c'est votre jardin, monsieur, et tout ce qui vous arrivera dans la vie aura sa répercussion ici. »
Belle langue, même en traduction, finalement, mais effectivement... La langue originale, oui, est savoureuse,
oui,
de Buzzati.
Je pense.
Merci Dominique, merci Laurent, et puis à bientôt à tous.
Au revoir.
Au revoir.
À l'écoute de l'Italie.
Une émission de l'association INIS, Italie, Nord-Isère.
Le troisième ou dernier lundi du mois à 20h.
Rediffusion le jeudi suivant à 18h et le dimanche suivant à 10h.
Actualité et tradition.
Chansons et gastronomie.